Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction du S Racing. Une émission 100% NASCAR cette semaine, puisqu'il y avait une petite course du côté de Daytona, les fameux Daytona 500. Donc, on va revenir là-dessus et pour en parler, il a insulté les officiels qui ont sorti le drapeau jaune beaucoup trop tôt et ont ainsi privé Chase Elliott d'une magnifique victoire au Daytona 500. C'est Lilian. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Il était tellement heureux de la victoire de Michael McDowell qu'il nous a fait des news tout lundi. Il n'a pas arrêté. C'est Arnaud. Salut Arnaud.
Salut Geoffroy, salut tout le monde.
Et le Daytona International Speedway est bien plus petit que sa chatte incommensurable sur les pronostics. C'est Aloïs. Salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tout le monde.
C'est quoi cette intro?
C'est clair, j'ai eu très très peur quoi.
Ouais, j'avoue aussi. Oula!
C'est incroyable. Les pronostics d'Aloïs, je suis désolé, mais c'est un poème. On lui rappelle à 19h59 qu'il faut qu'il pronostique. Il tire un nom au hasard, ça gagne. Il le fait même pas exprès, il sait même pas comment il fait lui-même.
C'est faux, ça par contre, je tiens à rétablir la vérité. Michael McDowell pour vainqueur des Daytona 500, il est vrai, mais c'était une semaine avant la course. Rétablissons la vérité, monsieur Lévy.
Pour une fois. Allez, on l'a dit, Michael McDowell qui a gagné. Michael McDowell, Lilian, il pourrait le surnommer Moïse quand même, hein, parce que il s'est bien ouvert la piste pour pouvoir aller gagner dans le dernier tour.
Bah, de toute façon, on se doutait bien que ça allait tenter dans tous les sens. Bon, bah, il a tenté. Après, est-ce qu'on peut dire qu'il a envoyé Keselowski dans le Logano pour faire le ménage sur les images? Bon.
Carrément, carrément.
Ah non, 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 non.
Ouais, bah voilà, ça diverge. C'est, il y a des pour, il y a du contre. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que oui, en effet, il a quand même poussé Keselowski. Bon, il l'a déséquilibré. Keselowski déséquilibre Logano en même temps. Puis bah derrière, il va chercher les Daytona 500 parce qu'il est quand même logique que vu la casse qu'il y a derrière, la NASCAR sorte le drapeau jaune avant que les premiers ne passent la ligne.
Oui, c'est vrai, mais bon, c'est souvent à géométrie variable ce règlement du drapeau jaune dans le dernier tour quand il y a accident. Pardon.
Moi, je suis quand même surpris parce que c'est bien que tu lèves ce point-là parce que globalement, on n'a quand même pas vu beaucoup de réactions sur le fait que McDowell il pousse Keselowski. Tu vois, on parle tous de l'accrochage entre Keselowski mince, bon, j'ai
son Logano.
Voilà, et Logano, on parle que de ça, mais enfin, pour moi, c'est McDowell qui pousse Keselowski dans Logano. Et je suis surpris parce que personne, enfin, quasiment personne, en fait, soulève ça. Ça n'a pas créé de scandale, ça n'a pas créé de discussion. Alors que si tu regardes les images, il n'y a pas photo. C'est quand même lui qui le pousse, qui le déséquilibre et qui fait que les deux devants se crachent. Alors bon, il aurait pu être pris dans l'accident aussi. Mais je suis vachement surpris que ça n'ait pas fait plus polémique, ça.
Là, tu vois, je suis pas trop d'accord avec toi, Arnaud, parce que faut également prendre en compte que Michael McDowell est poussé par Chase Elliott derrière lui. Et en final, c'est ce qu'on appelle that's racing. En fait, c'est un fait course qui a de grosses répercussions, il est vrai. Mais Chase Elliott poussait Michael McDowell, qui poussait Keselowski, qui a poussé Logano. Et au final, de fil en aiguille, bah, les chocs se sont un petit peu étaient de plus en plus forts. Et Keselowski s'est décalé un peu sur la gauche, bah, justement pour profiter du push et éviter de foutre son collègue dans le mur, ce qui au final est arrivé parce que tout le monde était trop près l'un de l'autre. Et ça a lancé le fameux carnage du dernier tour qui a fait du petit bois, comme disait Lilian, surtout entre Keselowski et Kyle Busch. Et c'est à mon sens pour le pourquoi du comment. Du drapeau jaune avant le drapeau de damier parce que ça a tapé très 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 fort.
Bah, t'as vu la boule de feu encore une fois?
Ouais, quand tu vois l'état de la voiture de Keselowski aussi, enfin, une fois qu'il est sorti, tu es content, mais
Ça fait peur.
la voiture, elle est bien endommagée. Et on se dit, hein, entre l'année dernière, Newman, cet accident-là, je pense que la sécurité des voitures, il y a quand même eu un gros step qui a été fait. Et là, je crois que là, enfin, on le dit à chaque fois qu'il y a des gros accidents, mais quand tu vois là ce qui se passe, que ce soit l'accident du début de course ou celui-là, enfin, les gars, ils ressortent, ils n'ont rien, quoi. Ils n'ont rien du tout.
Et Aloïs, pour pondérer un peu tes propos, j'ai revu les images quand tu en parlais. Ça fait un moment que Chase Elliott ne pousse plus
Mais oui, mais oui, mais
Michael McDowell quand Michael McDowell pousse Brad Keselowski. Et Brad Keselowski, tu le disais Arnaud, il n'y a pas eu de polémique. Brad Keselowski a commencé à parler et il a un peu traité Michael McDowell de fils de la plage.
voilà, mais c'est clair, mais franchement, sur les images, il n'y a pas photo. Sur les images, pour moi, après, je suis pas dans la voiture, hein, je suis pas pilote, mais c'est exprès ou pas exprès. C'est McDowell qu'on voit Keselowski dans le Logano et dans le décor. Donc, ok, il se fait sa place, ok, il fait un push, mais.
Il lui fait un push comme Austin Dillon fait des pushes, comme Ricky Stenhouse fait des pushes, comme justement
mais
tout le monde
ouais,
en
mais
fait
c'est
au final.
Michael McDowell, quoi.
Ouais, mais
Au final,
McDowell,
Michael McDowell, c'est quelqu'un qui n'est pas connu, donc,
Non, mais
un,
c'est pas
c'est de
ça, mais
bonne
c'est que.
histoire, donc la NASCAR n'en parle pas trop, mais deux, également, c'est quelqu'un qui est connu pour être assez rugueux, il est vrai.
Ouais,
C'est
mais
pas
regarde, c'est l'arrivée des
sûrement à
Lucas
la plaque,
Ascension.
carrément.
Ouais, franchement, c'est.
Ça, on le sait, mais après aussi, Chase Elliott peut-être ne le touche pas, j'ai pas fait attention, mais je vous explique pas le phénomène de la bulle derrière la voiture également, l'aéro, en fait, c'est. Je pense que c'est surtout un problème, c'est pas volontaire, c'est certain.
Non, mais on t'enlèvera pas tes points au jeu, hein, t'inquiète pas. C'est juste que là, je trouve que bon, voilà, il a. Mais tant mieux pour lui, écoute, c'est une belle histoire, c'est un cendrillon, il y en a régulièrement au Daytona 500, c'est top. Mais j'étais surpris, voilà, qu'on parle pas plus de le fait qu'il est sort. Hein. Franchement, pour moi, il est sort devant.
Aussi, on ne peut pas dire qu'il ne mérite pas, que c'est une surprise totale, puisqu'il est toujours compétitif sur Ovals à la plaque et notamment Daytona. Et ça fait bien 10-15 ans qu'il cherche une victoire et il l'obtient, certes, de manière un peu controversée, mais ce n'est
Mais non,
pas une
même
grande
pas.
surprise
Tu vois,
non
c'est
plus.
ça. Pour moi, elle n'est même pas controversée. C'est ça qui me surprend, connaissant la NASCAR et puis ils aiment bien faire le buzz, etc., des rivalités. Elle n'est même pas controversée, sa victoire. Alors que pour moi, il y a toutes les raisons qu'elle le soit. Donc, soit faire, on va revenir un petit peu sur McDowell, peut-être. Mais comme tu dis, on ne peut pas dire qu'il ne mérite pas. De toute façon, un pilote qui gagne une course, il le mérite d'une manière ou d'une autre. Hier, déjà, rien que de monter dans la voiture, ça se mérite. Donc, il était là au bon endroit, au bon moment. Il a peut-être mis un petit coup de pouce au destin, et puis voilà, tant mieux pour lui, il aura ça au moins sur son palmarès en NASCAR.
Eh oui.
Donc Geoffroy, Monsieur McDowell, bon, ça fait un bout de temps, enfin, moi McDowell, si je devais m'en rappeler, c'est pour son crash au Texas il y a une dizaine
Forcément.
d'années, je sais pas
En
pourquoi.
qualif.
Ouais.
En 2008. Ouais. Dans la
Ouais,
double
c'est ça.
zéro. Ouais, dans la double zéro de la Michael Waltrip Racing. Donc, eh ben, c'est 358 départs maintenant en NASCAR Cup Series. Une victoire. Toujours pas de pole et toujours aucune apparition en playoff. Ça devrait être la première cette année si tout va bien. Sa première saison à temps complet, ça remonte à 2008 pour ce brave monsieur qui est né un 21 décembre 1984 du côté de Glendale dans l'Arizona. Donc, Aloïs connaît très bien cette ville. Et il a plusieurs enfants. Michael McDowell qui s'appelle Trace, Emma, Riley et Lucas. Et ses passions hors course automobile, c'est la chasse, le tir, le karting et le cyclisme.
D'ailleurs, il a un karting avec sa femme en Caroline du Nord.
À Huntersville, puisqu'il réside dans ce coin-là, et que sa femme s'appelle Jenny, histoire d'être vraiment complet.
A pu garder les infos pour les infos qui servent à rien, mais pourquoi c'est
Ouais, là,
trop.
oui. Et les animaux, non, tu as ou penses
ceux qui sont empaillés ou ceux qui sont vivants?
Ah, oui, c'est vrai qu'elle est en chasse.
Ouais.
Oui, il a le profil, ouais, c'est ça.
Voilà.
Tu donnais son nombre de c'est sa première victoire en 358 départs. Le seul qui a fait pire, si je dis pas de bêtises, c'est Waltrip, non?
C'est Michael Waltrip, 453 de tête, hein.
63.
Tu l'avais mis dans ta news, ouais.
463, ouais.
Ouais.
Donc,
Donc
ouais,
c'est.
c'est ça. Et du coup, sur comment sur l'échelle des surprises qui va du Tiny Lund au Michael Waltrip en passant par le Derrick Cope ou le Trevor Bayne, vous le placez où, Michael McDowell?
Assez haut quand même. Hein.
Ah ouais, quand même. Hein.
Non, pas aussi haut que Trevor Bayne.
Bah, Bayne, il y a le côté historique de la voiture aussi.
Ouais, mais puis Bayne, Trevor Bayne, c'était un jeune pilote aussi.
C'est son quatrième ou cinquième départ, hein, Bayne, si je dis pas de bêtises.
Voilà, donc tu vois, quelque part, tu te dis que c'est une surprise. C'est une surprise, mais tu dis ça peut être un prodige, quoi. Bon, au final, c'était pas le prodige qu'on attendait. Mais Michael McDowell, tu sais que c'est pas un prodige, tu sais que c'est un pilote de milieu de peloton. Voilà, il joue la 20-30e place. Donc c'est plus à ce niveau-là que pour moi tu le places haut au niveau des surprises. C'est que c'est le gars qui était, alors sauf pour toi qui l'a pronostiqué, mais c'est le gars qui était, enfin, loin des radars. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, ceux qui ont misé sur lui à Las Vegas, ils s'ont fait plutôt un petit peu d'argent. Quoi.
Ah bah oui, forcément.
J'ai pas regardé les cotes, mais oui, j'imagine.
Vas-y, et tous ceux qui l'ont mis dans les fantasy sur NASCAR.com, c'est pareil, ça a fait des points.
Et puis bon, voilà, et comme tu disais, il y a des chances qu'on le voit en playoff. Hier, si il fait une saison comme il a fait l'année dernière, qui était sa meilleure, hein, il termine 23e du classement général, ben voilà, là, il va enchaîner les points. Il n'a jamais été trop ridicule sur les courses routières. Donc, ce week-end, il peut aussi, je crois que c'était bien passé, il avait fait un top 10, je crois, l'année dernière. Donc, ça peut encore bien se passer. Il peut comme dire, capitaliser, avoir un peu de momentum, comme ils disent aux US. Et toi, s'il fait deux bons Daytona 500, un bon résultat à la course routière, et qu'il reste placé tout le reste de la saison, bah, il va aller tout doucement en playoff. Hein.
Oui, ça devrait le faire, parce que pour ne pas être en playoff, il faudrait être 17e dans l'ordre des pilotes éligibles. Donc ça voudrait dire qu'il y ait 16 autres pilotes qui aient gagné une course. Ça me paraît compromis.
Jusqu'à présent, ça ne s'est jamais vu.
Non, c'est ça. Ou sortir du top 30.
Sortir du top 30, c'est ça. Je pense que c'est plus probable qu'il se... Enfin, je ne le souhaite pas, mais il y a plus de chances qu'ils sortent du top 30 qu'il y ait 17 vainqueurs différents ou 18 vainqueurs différents. Quoi.
Et encore, ouais, il faut que 30 personnes lui passent devant, ce qui n'est pas dit non plus.
Ah non, non, parce qu'il n'est pas leader du classement général.
Mais oui.
Il est pas leader du classement général.
Ah oui, oui, après,
c'est question des bonus. Il est cinquième.
De
segment.
Segment, merci, cherchez le mot.
Alors, ça aussi, merci la NASCAR. Et explique aux gens qui ne regardent pas souvent que le gars qui a gagné la première course de la saison, les Daytona 500, il est cinquième du classement général.
Ouais. Ouais, bah, en plus, ouais, là, il y a des points avec les duels, alors.
Ouais, tu me laisses prendre de l'élan. Hein. Je vais te dire que là. Merci. Hein.
Déjà, le mode de qualification n'est pas évident. Mais alors, en plus, avec les points de bonus à certains moments.
Hey. Mais donc du coup, c'est Austin Dillon qui est leader du championnat pour la première fois de sa vie, enfin, en tout cas en Cup. Ah non, ben non, il n'était pas leader en 2018. Donc c'est Austin Dillon qui est leader du championnat devant Denny Hamlin à 6 points, Kevin Harvick à 8 points, Chase Elliott à 10 points et Michael McDowell à 12 points. Donc voilà un petit peu pour le classement général. Messieurs, on a parlé de cette arrivée et de ce gros accident qui a impliqué à peu près les trois quarts du peloton restant. Mais on avait eu quand même un gros carton au départ, après 15 tours, qui a éliminé Ryan Blaney, qui a éliminé Chris Buescher, qui a éliminé William Truex. Byron, Martin Truex Jr., Alex Bowman, Harry Almirola, David Ragan, Ryan Newman, Eric Jones, ça a fait du monde sur le carreau alors qu'on était qu'à 15 tours et on avait vraiment l'impression que ça jouait la gagne déjà.
Ouais, c'est bizarre cette tension, cette intensité ouais. qu'il y a eu dès le départ. Et je pense que c'est un fait de course malheureux et puis malheureusement ça a sorti beaucoup de voitures. On voit quand même régulièrement des accidents assez tôt. Par contre, là, comme ça s'est passé devant. Bah oui, ça a impliqué pas mal de monde du peloton, quoi. Donc, mais souvent, enfin, on voit, même avant ça, il y avait eu, c'est Derrick Cope qui s'arrête avant ça. Donc, très tôt, souvent, on a des petits soucis, des petites erreurs de déconcentration. Là, comme tu dis, le résultat, il a été assez important.
Bah, c'est surtout que c'est le deuxième et le troisième pilote dans le peloton qui s'accroche. Il y en a pas mal qui sont passés entre les mailles du filet d'un petit cheveu. Je pense notamment à Kyle Larson et celui qui était derrière lui, c'était Ryan Preece, non ? je crois.
Ouais, Michael McDowell aussi s'en sort très très bien.
Oui, mais c'est parti de très haut et du coup, bah, ça a fait empilement et il y avait quasiment une quinzaine de voitures impliquées de près ou de loin dans cet accident. Et ça a éliminé beaucoup de gros poissons. Parce que des Ryan Newman, des David Ragan, des Alex Bowman, des Eric Almirola, des Maddy Benedetto, même Chris Buescher, ça peut jouer la gagne sur un nouvel impact de restriction facilement.
Et par contre, Truex, toujours aussi poissard hein, sur Oval à plaque.
Ouais.
Je fais référence à l'article, je crois que c'était Geoffroy que tu avais publié il y a une dizaine de jours maintenant à peu près. Et bon, bah, ça démarre pas du bon pied malheureusement pour lui.
Et non. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour Truex sur les ovales à plaque. Enfin, disons là, il y a tel à dégâts.
Et d'ailleurs,
c'est marrant parce que pour un gars issu du sérail DEI, là, toi, Dale Earnhardt, etc., c'est bizarre qu'il n'ait pas cette fibre.
Mais en même temps, à la DEI, hormis Michael Waltrip et Dale Earnhardt Jr. en Cup, les stats le montrent. Il n'y a rien derrière. Je veux dire, que ce soit, c'était qui? C'était Jason Keller. C'était, tu l'as dit, Martin Truex Jr. C'était Steve Park. Ça n'a rien fait, quoi. C'est des stats, ils doivent être à 10 tours menés à E3 sur 5 saisons, quoi. Enfin, c'est ridicule. Donc, oui et non, quoi. Enfin, c'était vraiment un duo à la DEI et qui a fonctionné vraiment pendant 4 ans, quoi.
On parle de la pluie, du coup, parce que tu as parlé de gros poissons. Tu as parlé de gros poissons, mais je soupçonne la NASCAR d'avoir voulu un Big One avant d'arrêter la course. Comme ça, voilà, ceux qui étaient là, ceux qui étaient présents, ceux qui étaient devant leur télé, ils ont quand même pu avoir leur Big One à Daytona. Après, nous, on a pu aller se coucher. Et puis, les Américains...
On a pu aller se lever aussi.
On a pu aller attendre, et du coup, ouais, ça, c'était un petit peu compliqué comme dimanche.
Mais ouais, nous, ça s'est fini très tôt, ouais.
Ouais, ça s'est fini, 6h du mat, en gros.
6h15, ouais, précisément.
Donc, oui, puisque il a plu. D'abord ça a été un orage, ça a été
les éclairs
qui ont.
Voilà. Ah oui, c'était donc ce protocole.
On en a pris pour 30 minutes et dans le protocole 30 minutes, il s'est mis à pleuvoir, mais un orage comme on en avait rarement vu ces dernières années en NASCAR. Et puis de fil en aiguille, ça a continué de pleuvoir. Et voilà, c'eût été une course normale. On se posait même pas la question, la NASCAR reportait au mardi 10h heure locale et c'était fini l'histoire, quoi. Mais Daytona 500 oblige, on a fait ce qu'il fallait et on est reparti très 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 tard, quitte à avoir des audiences pourries. Valait mieux quoi. C'est toi qui as les stats, Loïs? C'est quoi ces 2,8 d'audience un dimanche soir plutôt que 1,2 un mardi, quoi?
Enfin, 1,2 un mardi, t'es gentil, c'est peut-être limite, t'as plus de chances de faire de bonnes audiences sur cet horaire-ci. J'ai fermé la page, je vais juste te la rouvrir.
Mais toi, ça, c'est typiquement, je comprends pas la stratégie de la NASCAR, parce qu'en plus, ils restaient à Daytona. Donc, toi, il n'y avait aucun problème de logistique, etc. C'était. Enfin.
Bah, si, il faut quand même évacuer les voitures de Super Speedway et apporter les voitures routières.
Ouais, mais c'est. Enfin, dire, c'est. Toi, t'as pas tout le cirque à déplacer, quoi.
Ah oui, je suis d'accord. Mais c'est Daytona 500. C'est la course la plus prestigieuse.
Enfin, c'est ouais, comme mais si personne la regarde. Elle est prestigieuse, mais personne la regarde. Tu vois.
Ouais, pour revenir sur les chiffres, tu es sur du 2,8 de rating, ce qui est 4,8 millions d'audience sur la Fox. Mmh. Et ça avait commencé sur les trois premiers quarts d'heure. De course, on était à 4,7 de moyenne et quasiment 8,5 millions, ce qui est relativement anormal depuis le passage à la Fox en 2014-2015, surtout en sachant que ça monte au fil des tours, quand il n'y a pas d'arrêt évidemment de plusieurs heures à cause de la pluie. Mais même si on compare avec 2014 qui était également repoussé à cause de la pluie, la moyenne était de 5,6 en un rating et du coup 9,3 millions d'audience en 2014. Là, t'es à moitié quasiment.
Donc, 2014, c'est Junior qui gagne.
Ah, bah c'est peut-être pour ça, hein.
Non, mais ce qu'on fera,
je dis ça, je dis rien.
Ce qu'on fera, Geoffroy, on demandera à Pat et Phil voir comment ça s'est passé pour eux au niveau des audiences. On n'aura sûrement pas les chiffres parce qu'ils communiquent pas là-dessus, mais voir un petit peu entre le monde qu'il y avait dimanche soir et puis la course quand ils l'ont rediffusé lundi.
Lundi,
soir.
Ouais. Ah, bah, oui. Mais c'est vrai que c'est un peu un problème insoluble. Là encore, la NASCAR est à géométrie variable là-dessus, mais j'ai quand même souvenir de quelques Daytona 500 perturbés par la pluie ces dernières années. Quoi qu'il arrive, on y va le dimanche soir plutôt que le lundi, dans la mesure du météorologiquement possible.
Ouais, mais là, ils ont redémarré très tard quand même. Parce qu'à l'heure locale, ils ont redémarré vers quelle heure? 22h30?
Ouais, la course, c'est quasiment terminé à minuit, heure locale. Hein.
Oui, oui, c'est terminé après minuit, oui. Ils sont repartis, il était plus de 21h, oui, c'est sûr. Mais,
Parce que c'est quelle année, je crois, qui était un peu similaire au niveau de l'arrivée, les horaires? C'est l'année où Junior gagne. C'était quoi, 2014?
2014, c'était le lundi, la course.
Il y a eu Ken Seth aussi, il y a eu Ken Seth une année. Qui gagne en nocturne.
2016-17.
C'était pas avec le même crew chief que McDowell?
Non, même crew chief que McDowell, 2009. Ça doit être 2009. Ouais, quand il a la rush, ouais. Et il y a une année aussi, quand NBC revient sur la course estivale de Daytona, qu'il l'avait mise un dimanche. Et là, je crois que c'est pareil, hein. C'est terminé, il était très tôt chez nous en France le lundi matin, quoi.
Ah bah non, bah c'est celle-là, alors je confondais, ouais, c'était pas un Daytona 500, c'était un Daytona 400, ouais.
Et tout ça,
c'est quand Dylan finit dans les grillages.
Bah c'est 2014.
Tout ça pour dire qu'ils ont fait des audiences de merde, et que ça continue de pire en pire.
Ouais, ça...
Donc, pour vous, fallait... les commentaires avec Boyer, il y a vraiment un plus. Hein. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment sympa. Hein.
Et c'est clair.
C'est marrant parce qu'il joue vachement sur la rivalité.
C'est vraiment rigolo, quoi.
Il joue vachement sur la rivalité avec Jeff Gordon en plus, donc.
Oui.
Rien que déjà la pub qu'ils ont fait avec Gordon qui prend l'ascenseur et qui se dépêche de fermer les portes.
C'est clair. Si on reparle de la course en elle-même là, l'arrivée, le fait que ça ait roulé sur une file et le Denny Hamlin là. Oui. C'est quoi votre feeling là sur ce qui s'est passé, que c'est quand même pas anodin, hein, quand on voit comment ça a roulé. Si on enlève vraiment la toute fin de course où là ça a commencé à refaire des lignes différentes et à se bagarrer, ça a quand même été vachement monotone cette mono file là pendant le dernier tiers de l'épreuve, non?
Comme à chaque
fois, c'est ce qui arrive souvent.
Ouais, mais on n'avait pas ça avant, et là j'ai l'impression que toi, le fait que les équipes jouent, les constructeurs, ils jouent ou même les pilotes, toi, ils jouent l'équipe, ils jouent le constructeur, ils jouent pas trop perso, toi, dans ces épreuves-là, finalement on se retrouve avec des courses assez monotones, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans, quoi.
Je pense qu'il y a une part de vrai dans ce que dit Arnaud, mais également le fait qu'il y ait 20 voitures compétitives qui tournent en même temps, ça aide pas non plus.
On n'avait plus que 20 voitures. Hein.
Puis après, t'as pas forcément des voitures aussi performantes sans critiquer ou sans tirer à balles réelles sur les petites écuries. Mais quand tu te retrouves avec quoi, une vingtaine de voitures compétitives, c'est plus difficile de former 2-3 lignes. Encore 3 lignes, faut même pas imaginer, mais même 2 lignes, ça devient compliqué. Et tu rajoutes le jeu de stratégie écurie / constructeur. Ça aide vraiment pas, c'est certain.
Mais ça fait des années qu'il y a ce problème, on va pas se mentir.
Ouais, mais tu vois, ça commence un peu à se cristalliser, parce que Denny Hamlin, il s'est quand même vachement plein de ça. Alors, ça a été le premier à en profiter. Hein. Il a quand même, quand il a gagné, forcément, il avait été aidé par ses coéquipiers. Mais là, il s'en plaint vraiment, parce que, en gros, tu peux pas lutter. Quand tu n'as qu'une file, s'il n'y a pas d'autre file qui se crée, si personne te suit, tu es mort, quoi.
Ouais, puis surtout, lui, il a une telle pancarte de favori, personne n'allait l'aider.
On en parle de la stratégie en carton sur le dernier arrêt de chez Toyota ou...
Mais oui, il faut.
Ah, bah, ça aide pas non plus pour former une deuxième ligne, ça. Hein.
Ah, parce que déjà ils sont plus de 4, ça aide pas. Ils rentrent ensemble, c'est bien, ils repartent en ordre dispersé. Hamlin casse super bien la file qui remontait sur lui là, avec les pilotes forts des Chevrolet. Mais déjà, à la base, c'est les arrêts qui sont pourris. C'est là le problème. C'est là qu'Hamlin la perd la course.
Bah déjà parce que les Toyota rentrent en dernier.
Et puis repartent avec 150 mètres d'écart entre chaque bagnole.
Oui, pas beaucoup de Toyota sur la grille. Ils rentrent en dernier. Hein.
Donc ça aide pas quoi. Donc voilà quoi. C'est là que Hamlin se fait avoir. Tant pis pour lui, il en a gagné 3. C'est vrai qu'il était bien parti. Il a mené 98 tours. Pour le coup, il nous a fait une Earnhardt. Mais.
C'est le seul Gibbs qui finit en entier. Hein. La Gibbs repart quand même avec 3 épaves.
Ouais, ça leur a coûté cher en châssis. Là. Et puis elles sont cassées. Hein.
Et puis celle de Kate Bush, tu ressors un demi-châssis, je pense.
Bah, c'est. Je pense que Dale Earnhardt Jr. il va aller faire son marché chez Gibbs là, pour son cimetière d'épave.
Penske peut y aller aussi, hein, parce que les trois, elles ont pris cher dans le dernier tour. Hein.
C'est vrai aussi. Il a un bon petit marché à faire. Mais il va falloir un semi-remorque. Mais bon, c'est ainsi.
Bon, du coup, sur le bilan, McDowell, donc vainqueur du Daytona 500, c'était la 63e édition. Tu l'as dit, Geoffroy, c'était sa première victoire en 358 départs en Cup.
Ouais.
Sa première victoire et son premier top 10 de la saison, ça, c'est pas nouveau. Chase Elliott qui termine deuxième, c'est son deuxième top 10 en 11 départs, en 11 courses à Daytona. Sur le Daytona Speedway, pardon, parce qu'il a gagné.
Il a gagné sur le road course, ça compte pas, ouais.
Voilà. Austin Dillon, troisième. Son huitième top 10 en 16 courses à Daytona. Et Chase Briscoe, 19e, meilleur rookie. Voilà. Donc, oui.
À 3 tours.
À 3 tours, c'est ça. Dire 19e, si t'es pas dans le top 5 à Daytona, on va dire que ça compte pas parce que n'importe qui peut être 6e, quoi.
Briscoe.
Ouais, mais enfin, comme tout le monde, impliqué dans le premier accident. Et puis après, tu fais ce que tu peux avec ton épave, et à partir du moment où Anthony Alfredo arrêtait, enfin, tu savais que Chase Briscoe était le meilleur rookie de la course. Mais 19e, 20e, 24e, 32e, ça changeait rien.
C'est clair.
Enfin, c'est juste que voilà, il est pris dans l'accident, sa voiture elle roule comme elle peut. Il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à jouer, quoi. C'est juste essayer de prendre un minimum d'expérience, aider les pilotes forts si possible. Et puis, juste pas faire le con quand il y a des leaders et qu'on se fait prendre un tour.
Bon, après les Daytona 500, qui sont un peu clairement une course à part dans le calendrier, c'est la course à Daytona, mais sur le routier, qui sera aussi à part dans le calendrier, hein, forcément.
Qui reprend Fontana.
Enfin, qui reprend Miami, qui reprenait Fontana.
Non, qui reprend Fontana. Et après, la NASCAR a décidé de déplacer Miami à Fontana. Miami en troisième semaine, pardon.
Je croyais que Miami passait en deuxième semaine dans la première version.
Miami était en deuxième semaine, mais avec l'arrêt de Fontana, ils se sont dit plutôt que de faire Daytona, Miami-Daytona, on fait Daytona-Daytona et ensuite on va à Miami.
Okay.
Ce qui, pour une fois, est quand même pas complètement déconnant d'un point de vue logistique.
La grille de départ vient d'être publiée, si je dis pas de bêtises.
Ouais. Chase Elliott en pole devant Michael McDowell. Ah.
Tu nous rappelles, Geoffroy, ou tu rappelles aux auditeurs comment c'est défini, parce que c'est un petit peu, c'est un peu compliqué.
C'est basé sur les performances des pilotes sur la course précédente plus le classement général. Donc c'est une formule assez savante plus le meilleur tour de la course. Donc voilà. Et s'il y a égalité en termes de meilleur tour en course, c'est le classement général qui détermine la place sur la grille. Et vu que c'est une course routière, bien évidemment, on aura des pneus pluie. Donc voilà, on peut donner le top 10 de la grille de départ. Chase Elliott, Michael McDowell, Austin Dillon, Denny Hamlin sur la deuxième ligne, Kevin Harvick, Ryan Priest sur la troisième, Corey LaJoie, Kyle Larson sur la quatrième, Ross Chastain, Bubba Wallace sur la cinquième. Donc voilà, ça fait aussi des noms qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir aussi haut en début de course.
Enfin, sur le papier, parce que Bubba Wallace, il va partir de du fond de grille, là, s'il continue comme ce qu'ils ont fait à Daytona avec leurs deux inspections ratées.
Ah, mais c'est bien, la Joe Gibbs Racing, elle a compris comment transférer les problèmes d'inspection d'avant-course. Donc, voilà, Eric Jones qui partira de l'arrière du peloton aussi suite à sa pénalité de Daytona. Mais bon, bah, voilà, après, grille classique, un fonctionnement de grille assez classique qu'on devrait retrouver sur toutes les courses de début de saison, sauf à Bristol sur le dirt où on aura des essais et des qualifs.
Donc, deuxième course de la saison, ça sera le 21. Ouais. La longueur, c'est 3,61 miles, donc une course routière, 14 virages. Avec un banking quand même à 31 degrés quand ils empruntent l'ovale. 70 tours prévus pour 252,7 miles et la durée de des deux premiers segments c'est 16 tours et le dernier 16 et 18 et le dernier 36,
c'est ça. Et on rappelle juste le règlement. Donc là, il y a les pneus pluie, donc il n'y a pas de souci. Mais sur une course NASCAR, maintenant, avec les segments, c'est le premier arrivé des 50% de la course ou du deuxième segment qui peut permettre d'entériner le résultat en cas de pluie.
Si la course est arrêtée.
Si la course est arrêtée. Donc voilà.
Le favori, voilà un petit peu. Le favori voilà, logique chez Elliott, hein, puisqu'il a gagné la première course en octobre dernier. Octobre dernier ?
Oui, c'est
en octobre.
Non, août.
Août dernier.
Août. Et voilà, puis il a gagné l'Euroval en octobre.
C'est ça. Donc,
il est sur quatre courses consécutives victorieuses. Il peut se rapprocher du record de Jeff Gordon, qui est de 6.
9.
Et il y en a qui se posent des. Non, 6 consécutives.
Ah, 6 consécutives, ok. 9 au total et 6 consécutives. Mais c'est vrai que chez Elliott, il se positionne clairement comme le pilote à battre sur les courses routières depuis qu'il est arrivé.
C'est pas 10 pour Gordon?
Non, moi j'ai 9, mais peut-être, hein, écoute. Si tu comptes les 24 heures d'Ecola?
Non. Ah non, c'est 9, exact. Ouais. Non, c'est 9. J'étais à 10, mais non.
J'ai eu bon sur une stat face à Geoffroy. Là,
c'est ça. C'est...
Et sur Gordon, c'est 5... en plus.
Non, mais... Et sur Gordon. Ouais,
je pensais que c'était 6 et 4, mais c'est 5 et 4. Donc ouais. Autant pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a déjà des gens qui pronostiquent sur Chase Elliott, vainqueur de toutes les courses routières cette saison. Il y en a quand même 7 au programme.
Ah oui, non, mais c'est ambitieux quand même.
On est d'accord, même s'il reste sur les 4 dernières. Messieurs, avant de terminer, un petit j'aime pas?
Allez.
Allez, et Lilian, je t'écoute avec ton j'aime et ton j'aime pas.
Bah, mon j'aime pas, c'est l'application TrackPass qu'on utilise pour regarder les courses de NASCAR en direct, qui n'a pas marché du week-end, en tout cas via PC. Sur tablette et smartphone, ça allait, mais moi, je branche mon PC à la télé, et donc du coup, bien compliqué. J'ai une grande télé, mais l'ordi, c'est beaucoup plus petit. C'est tout. J'ai fait avec les moyens du bord. Et mon j'aime, on l'a dit, hein, les Daytona 500, l'arrivée a été très tôt en France et ça m'a permis de voir le direct pendant mon petit déjeuner.
Effectivement, c'était sympa. Il mangeait des Kellogg's pour soutenir Kyle Busch.
Marc Martin, s'il te plaît.
Kyle Busch avant. Terry Labonte aussi. Allez, Aloïs.
Mon j'aime, c'est d'apprendre. Au début de la course de Daytona, que 1. Michael Jordan et plus surprenant 2. Pitbull sont des grands fans de NASCAR depuis leur tendre enfance. C'était quelque chose à laquelle je ne m'étais pas préparé et m'a pris totalement par surprise.
Et oui, Jordan, okay. Apparemment, il allait beaucoup à Rockingham.
Effectivement, je te fais confiance.
Et ton « j'aime pas » du coup
Concernant mon « j'aime pas », c'est de choper une vilaine angine, n'en déplaise à certains qui se moquent, et qui du coup, quasiment 2 semaines plus tard, me met encore dans le mal. Donc on fait avec les moyens du bord pour survivre à cette douloureuse épreuve.
Qui n'en est pas. Merci d'avoir fait l'émission sous ta couette.
Ah, j'étais sur ma couette, attends, quand même, un peu de respect.
Arnaud ?
J'aime bien ce début de saison et le regain d'intérêt en fait qu'a la NASCAR avec l'arrivée de tous ces nouveaux propriétaires donc, dont on parlait. Là, il y a donc Jordan, il y a le téléphone qui sonne aussi. Donc il y a Jordan, il y a.
Réponse, c'est Michael Jordan qui t'appelle, je crois. Voilà,
Pitbull, mais aussi on sait qu'on va avoir probablement Floyd Mayweather. Là, il y a une annonce qui vient de tomber. Il y a un running back de NFL, Alvin Kamara, qui va commencer à mettre des billes aussi avec un pilote. Donc il y a une vraie appétence pour la NASCAR. Et donc c'est bien parce que ça va ramener du budget. Forcément, des figures comme ça, ça fait parler. Donc même des médias qui s'intéressent pas à la NASCAR en parlent. Justement, grâce à ces athlètes ou à ces gens très connus. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien et j'aime assez. Voilà. Donc ça augure plein de bonnes choses pour le futur de la NASCAR, qui faut pas se leurrer, hein, avec la perte de pilotes historiques ces dernières saisons avait un peu de plomb dans l'aile. Donc j'espère que ça va les aider à repartir de l'avant. Et j'aime pas la pluie à Daytona, c'est la loose quoi. C'est la loose. T'attends cette course-là depuis 6 mois, et puis c'est une catastrophe le dimanche soir quoi. Franchement.
Enfin, oui, même depuis un an, mais.
Ouais, mais du coup, non, parce que bon, t'as quand même d'autres courses, mais là, tu te dis, voilà, tu commences à te chauffer un petit peu. Enfin, en tout cas, toute l'intersaison, t'es chaud patate pour ce dimanche-là. Moi, perso, je prends mon lundi, hein, exprès. Et là, tu te retrouves devant ton truc, ça s'arrête, tu sais que ça va pas repartir, t'as la pluie qui arrive, tu dis bon, ok, c'est mort. Donc voilà, donc c'est tout, tu te montes, même toi, tu te montes, tu te chauffes, et puis au final, t'en profites pas comme tu voudrais parce que c'est tout de suite à regarder dans des conditions très compliquées. Très tard pour nous, très tôt pour les autres.
Et toi, ces dernières années, t'étais en Suède, quoi.
En plus. Et donc, voilà, j'avais l'occasion d'en profiter et j'étais chaud comme il faut. Et puis, bah non, voilà. Donc, un petit peu, donc ça fait chier.
C'est ça. Mon j'aime, bah écoute, c'est toute cette symbolique autour du troisième tour de Daytona cette année. Je ne sais pas si vous avez fait attention.
Ah oui, c'était pas
mal. Qui a mené le troisième tour de Daytona 500?
Austin Dillon.
Non, Kevin Harvick, le successeur de Dale Earnhardt. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin du troisième tour? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Oui. Non, vous n'avez pas vu?
Non.
La crevaison et l'abandon de Derek Cope. Ah. Derek Cope, quand on sait qu'il gagne les Daytona 500 1990 sur une crevaison de Dale Earnhardt dans le dernier tour, j'ai trouvé ça magnifique.
Là, on ne peut pas lui
dire. J'ai trouvé ça beau.
Le coup de
tirage. J'ai trouvé ça beau. Non, et puis c'est pour faire de la pub, pour vous dire qu'en fin de semaine, on vous proposera sur VS Racing de revivre les Daytona 500 1990. Donc voilà, vous savez déjà le vainqueur, mais ça ne vous empêche pas d'avoir toute la course et de voir tout ce qui se passe.
Et ton voilà. J'aime pas.
Et mon j'aime pas. Cette année, il n'y a personne qui a râlé qu'on a posté les résultats alors qu'ils n'avaient pas vu la course. C'est dommage. J'aurais bien aimé.
ça te manque de te faire insulter, c'est ça?
Oh non, parce que maintenant, si tu veux, ça me glisse dessus. Depuis 15 ans que je fais ça, j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que ça fait drôle, quoi. On s'y attend toujours un petit peu en début de saison. Et là, finalement, même pas une petite insulte, rien. Les gens sont vraiment calmés, quoi. Pourtant, quand on voit les chiffres sur VS Racing, ça a bien fonctionné, Arnaud.
Ah oui, c'est clair, ça a été une très très belle journée. Non, mais... ouais, comme toujours, enfin, c'est le rendez-vous, on sait, un des rendez-vous annuels de fort affluence sur US Racing. Quoi.
C'est ça, effectivement. Eh bien écoutez, messieurs, merci. On va s'arrêter là-dessus pour cette émission. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer la course routière, qui sera aussi un grand rendez-vous à n'en pas douter.
Avec un accrochage dans la dernière chicane.
la revanche chez Elliott Ryan Blaney. Effectivement. Merci à toutes et tous d'avoir écouté. Rendez-vous tout le reste de la semaine et tout le week-end pour des infos sur US Racing. Et puis la semaine prochaine pour le débrief. Salut tout le monde, bye bye.
Bye bye.
Bon courage, à la semaine prochaine.
Bonne journée à tous, ciao.